Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on parle de Notre-Dame-des-Landes, vue de l'intérieur. On est bien ici, dans cette cabane. On hésite presque à l'appeler une cabane, c'est une maison en bois, très belle, au milieu de champs, de bois. Une cabane dans laquelle vous êtes un certain nombre à vivre, à l'écart, et en même temps, de manière extrêmement dense et intense, reliés les uns aux autres et reliés aussi beaucoup plus largement à l'ensemble du territoire et même au-delà, puisque la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en est venue à incarner une sorte de modèle, de lieu source et ressource pour énormément de groupes, de collectifs qui s'inscrivent dans différents lieux, en France et à l'étranger. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle tous ensemble, Eric, Camille, Jacob, de ce que ça signifie d'habiter des lieux comme celui-ci. Et par lieu, j'entends pas simplement la ferme des 100 noms où nous sommes aujourd'hui, mais plus largement la ZAD, cette constellation de lieux qui sont autant de lieux où on invente des choses et où en même temps le quotidien est en train de devenir un quotidien sur la durée. Alors peut-être commencer par parler de l'histoire du lieu. Qui voudrait la raconter? Camille?
Ouais. Donc le lieu ici au Sans Nom, il commence plutôt après les opérations César en 2012, quand les forces de l'ordre viennent, les expulsent et détruisent beaucoup de cabanes. Et dans les mois qui suivent, beaucoup de gens qui se disent bah c'est pas du terrain perdu, on peut reconstruire. Et on est plusieurs à réfléchir à reconstruire à la fois un lieu de vie et en même temps un lieu de production alimentaire, donc autour d'un jardin notamment. Et on est une quinzaine de personnes qui, comme ça, dans les mois qui suivent de la résistance face à l'expulsion, à se dire, bon, bah, on prend un champ et puis on commence à y vivre dessus.
Vous habitiez déjà ici avant? Vous étiez déjà sur la ZAD?
Alors, pour la quinzaine de personnes qui sont au départ de ce projet-là, il y en a qui vivaient un peu avant, il y en a beaucoup qui sont venus pendant les expulsions et qui finalement sont restés alors qu'ils ne devaient en général que passer. Et après, comme beaucoup de collectifs, les choses bougent et les gens viennent, partent. Donc la quinzaine de personnes a pas mal changé depuis, mais il y a quand même des gens qui tiennent la durée là.
Et donc vous disiez prendre un champ et commencer à cultiver, c'est-à-dire que au moment de la crise, au moment de l'expulsion, au moment où justement on pouvait imaginer que tout était fini, c'est là que vous vous êtes dit bah, on va s'installer, au contraire.
C'est ça, ouais. L'idée c'était de refaire vivre les endroits, les lieux, les cabanes, les champs qui avaient été détruits pendant cette opération-là. Et comme il y avait énormément d'énergie à ce moment-là, bah, ça paraissait pas impossible de reprendre tous les endroits qui avaient été détruits, quoi.
Eric?
Une anecdote qui est intéressante, c'est que sur la quinzaine de personnes, et même une vingtaine, j'avais compté il y a pas longtemps, on était une vingtaine de personnes au début, à se lancer sur ce projet des 100 noms. Et ben, au départ, on se connaissait pas du tout, et on s'est tous rencontrés à la Châtaigne. Et c'est intéressant parce que, du coup, on était un collectif très très hétérogène, et assez nombreux, avec beaucoup d'énergie. Du coup, ça a permis à des gens très différents les uns des autres de cohabiter, parce que aussi, il y avait plein de gens qui faisaient comme des ponts ou des intermédiaires, ce qui fait que le collectif se tenait.
Du fait de l'hétérogénéité.
Oui.
Et des ponts.
Oui, oui. Et ce qui a fait qu'on s'est rencontrés et soudés en un collectif, c'est qu'on a vécu des choses très fortes au moment de la réoccupation à la Châtaigne. Qu'il y avait une énergie incroyable. C'était un moment.
La Châtaigne, qu'est-ce que c'était?
La Châtaigne, c'est le lieu qui a été reconstruit au moment de la manif de réoccupation. Donc la manif qui a réuni 40 000 personnes, où il y avait des tracteurs, des centaines de tracteurs avec des chargements de cabanes qui avaient été préconstruites et transportées jusque-là pour un peu conjurer la destruction des lieux de l'opération César.
Il faut rappeler que cette destruction avait été radicale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une pierre qui était restée, les maisons qui étaient là auparavant avaient été détruites intégralement, la terre retournée, arasée, enfin c'était vraiment une opération d'effacement.
Oui, pour les habitants qui habitaient là depuis longtemps, c'était d'une violence inouïe, quoi. Psychologiquement, c'est on détruit leur passé, on détruit leurs souvenirs, on détruit leur histoire. C'est extrêmement violent, quoi.
Et à cette violence a répondu effectivement ces quelques jours après l'opération César, où il y a eu un élan de reconstruction qui était tout aussi énorme.
Oui. Et alors, on a senti à ce moment-là que la lutte était loin d'être terminée, et même on s'est dit, ah ben, en fait, on va sûrement gagner, parce qu'on a senti que cette lutte, elle prenait une dimension qui dépassait complètement ce qu'on imaginait, et on se sentait extrêmement fort, et d'ailleurs, à juste titre, hein, je pense.
Jacob?
C'est assez difficile de synthétiser tout ce qui a pu se passer pendant ces moments-là en quelques minutes, mais moi, ce que j'en retiens, c'était le fait d'avoir un brassage incroyable et quasi immédiat, automatique, quoi. C'est-à-dire que les gens se mélangeaient, faisaient des choses ensemble et étaient solidaires sans se poser la moindre question, en fait. Les gens, ils débarquaient de la ville, des fois avec leurs petits pulls blancs, et tu les voyais une demi-heure après dans la boue, transbahuter, planter les trucs sans s'être plaint, sans... Enfin, c'était... Une espèce d'énergie qui portait un peu tout le monde, quoi, et qui, je sais pas, qui a fait que les gens, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, se sont sentis portés par quelque chose qui les dépassait et se sont sentis pousser des ailes pour réaliser un peu tout ce qu'ils sentaient pouvoir être utile sur le moment et...
Et qu'est-ce que c'était ce tout, justement? Qu'est-ce qui pouvait être utile dans cette vie qui était en train de se construire au fond de la forêt, dans le bocage?
Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une concentration de toutes les alternatives ou de peut-être tout ce que les gens n'osaient pas ou n'avaient pas les moyens de faire un peu partout ailleurs dans les lieux militants, dans les luttes ou dans les alternatives, quoi. C'est-à-dire que il y avait à la fois tout plein de rencontres et de débats, il y avait des concerts de l'art de manière spontanée, t'avais de la construction partout, t'avais des affrontements. Mais t'avais différentes manières de se confronter à la police, en fait. Cette période-là, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment pas uniquement l'affrontement avec la police. C'est vraiment un bouillonnement d'énergie et d'initiative dans tous les sens qui fait que les gens se sentaient complètement accrochés, en fait.
Eric.
Chacun participait à sa façon. Il y avait des gens qui apportaient du ravitaillement, de la nourriture. On est nombreux à se souvenir avoir mangé des huîtres sur les barricades avec du vin blanc. On avait des quantités de chocolat, mais incroyable, et du bon chocolat. Hein. On sentait que les gens prenaient soin de nous, quoi. Prenaient soin de la lutte. Il y avait des gens qui dormaient sur les barricades, mais des gens de toutes sortes, de tous âges.
Y avait les constructions aussi.
Sur la châtaigne. Et dans la forêt de Roanne aussi. Donc en fait, sur la châtaigne, c'était une parcelle qui avait été... choisi pour justement être le lieu principal de reconstruction pendant la manif, parce que en gros à chaque manif de la lutte contre l'aéroport, on associe un geste collectif. C'est pas juste une démonstration de pas content, pas content. C'est il y a un geste qui est porté, qui est le plus souvent illégal. Et
Par exemple.
là le geste c'était un geste de reconstruction, alors même que l'État avait passé plus d'un mois à essayer de détruire la ZAD. Et donc sont arrivés des chargements. De planches, de tôles, de bâches, etc. Et il y a eu ce moment très très fort où les tracteurs en fait ne pouvaient pas accéder directement à la parcelle, donc il fallait tout transporter sur peut-être 100, 150 mètres. Et on a formé 2 chaînes humaines et on a passé planche par planche 7 cabanes entières. Et dans une joie, un enthousiasme partagé qui était un moment, l'un des moments les plus forts de nos vies, je pense. Enfin, c'était extraordinaire.
Il y a donc eu le fait que les groupes étaient tellement divers, mais peut-être aussi la force de ces moments-là qui ont servi à créer des racines immédiatement. Camille.
C'est sûr que passer du temps ensemble à construire à ce moment-là, ça fait que très rapidement tu lis des contacts avec des gens et aussi avec les gens qui sont là, les historiques. Et donc ça fait que petit à petit, tu as l'impression de faire partie du paysage assez rapidement et de rencontrer des agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue que les gens qui débarquent avec des idées liées à l'écologie, au changement et de tout plein de choses dans nos sociétés. Et c'est des moments de rencontre assez assez forts et c'est là-dessus qu'on se construit et qu'on devient fort parce qu'on arrive à échanger et à vivre avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, mais qui partagent ce même quotidien de... On est en lutte contre l'aéroport et... on a envie que la vie continue, quoi qu'il arrive. Même si l'aéroport est abandonné, bah, qu'on reste ensemble et qu'on continue à avancer sur plein de sujets.
Oui, en fait, ce qui se passait, c'est que vous vous découvriez un but commun au-delà des différences, des divergences, des désaccords, des modes de vie différents.
Oui, parce que notamment dans ce temps-là, il y a les constructions, il y a aussi des gens qui commencent à discuter ensemble de remettre en culture et de refaire démarrer des projets agricoles sur la zone à travers un groupe là, qui s'appelle Semtazad, qui était un espace de discussion et ensuite d'action pour le printemps qui commençait. Et bah, nous, au son nom, on a fait partie un peu de cette histoire-là, de refaire vivre des lieux qui avaient été détruits et expulsés, aussi avec une dynamique, une idée agricole et des envies d'autonomie alimentaire, de respect un peu plus abouti des sols que ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout plein de choses comme ça.
Donc, au son nom, vous le disiez, Camille, l'idée, ça a été effectivement de vous mettre à cultiver.
Même si on était tous différents, il y avait un point commun qui nous reliait quand même un peu tous, c'était l'idée d'expérimenter un lieu visant à l'autonomie alimentaire, l'autonomie en termes d'habitat, l'autonomie en termes d'énergie. Et donc, chacun, à notre manière, on a apporté notre petit grain de sel. Des gens qui, très rapidement, se sont dit, le jardin, il faut qu'il puisse avoir telle taille pour nourrir à peu près tant de personnes. Il y a des gens qui se sont dit, nous, on pense que c'est intéressant aussi d'avoir un petit poulailler avec pour tout ce qui est aussi gestion des déchets. Et donc, des gens qui sont partis sur le chantier du poulailler, même si certains avant l'avaient expérimenté, il y avait aussi des gens qui découvraient, par exemple, l'utilisation de toilettes sèches. Et ici, sur la zone, c'est quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas tout ça, et c'est tant mieux. Du coup, très rapidement, on a essayé de voir quels étaient les endroits où on pouvait s'autonomiser assez rapidement. Sur quel sujet? Et après, chacun est parti avec cette énergie-là pour rendre le lieu vivable, alors qu'au départ, c'était qu'une prairie où ici, c'est pas tant de choses que ça par rapport à ce qu'on vit maintenant.
Quand vous parlez d'autonomie, vous pensiez simplement à l'autonomie du lieu ou plus largement à l'autonomie de la ZAD? Camille?
Par rapport à l'autonomie, l'idée c'était qu'on soit aussi autonome à l'échelle du collectif, là, des sans noms. Et en même temps, s'inscrire dans toutes les dynamiques qui étaient portées par tous les collectifs qui étaient installés ou qui s'installaient à ce moment-là sur la zone. Et on a aussi pris part à travers Semtazad, là, avec tous les projets un peu plus conséquents, notamment, par exemple, ce qui s'est lancé assez rapidement, c'était un marché, le non-marché, là, qui a lieu tous les vendredis.
Un marché ou un non-marché?
Un non-marché. On y tient parce que c'est pas un lieu lié au capitalisme et à faire du profit sur les matières premières. L'idée de cet endroit-là, c'est un lieu d'échange avec de l'argent ou non, où les légumes et toutes les productions de différents collectifs sont à prix libre.
Je dirais même plutôt un lieu de partage, parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir quoi que ce soit à échanger en fait, pour venir se servir. On peut se servir en différents légumes, pains, produits laitiers qui ont été produits sur zone, sans se sentir obligé de donner quoi que ce soit, quoi.
Et ça fait qu'au sans nom, finalement, dans le lot des gens qui sont installés, il y a quelqu'un qui avait une formation de boulanger. Donc, il participe au groupe qui fait la boulange 4 jours par semaine et qui fait aussi la distribution, notamment sur ce lieu du non-marché-là. Et donc, ça fait que chacun... On a aussi envoyé des légumes assez régulièrement sur ce lieu-là, des œufs quand on en avait un peu plus. Donc, ça fait que même si le projet du collectif des sans-noms était plutôt... entre nous, au départ, on vit quand même dans un territoire qui est en permanence lié aux autres choses qui se passent à côté, quoi.
Mais si on revient au pain, par exemple, on parle d'autonomie, comment ça se passe? Vous achetez la farine et vous faites du pain, ou vous produisez vos céréales et vous avez un moulin et vous faites votre pain? Enfin, c'est l'un ou l'autre, c'est différent quand même. Eric?
Alors au début, on achetait la farine. Mais progressivement, il y a eu un groupe de gens qui venaient de pas très loin, qui avaient le projet de faire des cultures de blé. Et donc, ils ont cultivé une dizaine d'hectares. Et là, ça fait la deuxième année, ça va faire la troisième. Et puis, ils ont acheté un moulin et une bluterie. Et donc, maintenant, on a une autonomie sur l'ensemble de la filière blé-pain, quoi.
Pour l'ensemble de la ZAD.
Pour l'ensemble de la ZAD et même au-delà, c'est-à-dire qu'on fournit le pain aussi pour des cantines à Rennes, à Nantes, etc. Et puis sur le non-marché, pour les gens qui viennent de la ZAD ou des bourgs alentours ou de n'importe où, en fait, les gens de passage, n'importe qui peut venir chercher le pain.
Parce que le non-marché est ouvert.
C'est absolument ouvert, oui. Il n'y a aucune condition d'accès. Là, on parle beaucoup d'autonomie, au sens notamment d'autonomie alimentaire. C'est vrai que c'est important pour nous d'avoir une certaine autonomie sur ce qui est la base en fait pour vivre, c'est-à-dire avoir un toit pour se loger, donc on auto-construit nos cabanes pour pouvoir se nourrir, donc on fait un peu d'agriculture, nous qui n'étions pas du tout professionnels spécialisés dans ces domaines-là, et ben on s'y met, et ce qui a fait aussi qu'on voulait s'y mettre, c'est la volonté d'expérimenter, d'apprendre, de découvrir, de mettre un peu les mains dans la terre, d'apprendre à construire, et d'apprendre ensemble, de faire ensemble. Mais c'est absolument pas un objectif de devenir autarcique. On n'est absolument pas totalement autonome. C'est pas du tout notre rêve que de ne plus du tout avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. On achète.
Pourquoi c'est important ça ?
Eh ben parce que je sais que c'est un fantasme de beaucoup de gens. Un peu la petite maison dans la prairie avec le jardin où on aurait des moutons, où on carderait la laine, où on ferait nos vêtements, où on aurait nos légumes et où on pourrait vivre sans aucune dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et pour moi, c'est important de dire que c'est pas désirable, c'est un rêve, c'est une fiction. Que d'ailleurs, l'autarcie, ça s'appelle l'autarcie, ça conduit à un repli sur soi, à un retrait du monde. Et nous, on n'est pas du tout dans un retrait du monde. On est bien présent au monde. Et en lutte contre la société, contre l'organisation économique du monde. Mais on est bien présent ici à Notre-Dame-des-Landes et pas en retraite dans la montagne. Et si par exemple on vise une certaine autonomie agricole, alimentaire, de construction, c'est pour le plaisir de faire par nous-mêmes comme bon nous semble, mais c'est aussi pour ne pas être obligé de travailler et pour avoir une autonomie sur notre temps et pouvoir donc se libérer beaucoup de temps ou même en fait avoir que du temps libre pour pouvoir se consacrer à des activités qui nous plaisent, qui nous épanouissent et notamment à des activités politiques de lutte. Du coup, l'autonomie, on la défend aussi selon le sens de l'autonomie politique. C'est-à-dire, c'est le sens premier du mot autonomie. Ça vient du grec, hein, auto, soi-même, et nomos, c'est les lois, les règles. Ça s'oppose à hétéronome. L'hétéronomie, c'est quand on est soumis à des règles qu'on ne s'est pas choisies nous-mêmes.
Mais de fait, c'est lié, cette autonomie de vie et cette autonomie politique. Le fait de prendre en main sa propre existence, le fait de savoir... construire son lieu, de savoir faire pousser les choses qu'on va manger, de savoir élever les animaux qu'on va manger. Tout ça, ça fait aussi partie de cette désinsertion d'une société dans laquelle on pourvoit à tout et où en même temps l'injonction qui va avec, c'est d'être immobile, en fait, d'être un peu larvaire. Jacob ?
Oui, j'ai l'impression que les deux vont de pair dans la mesure où le fait de découvrir et d'expérimenter ces savoirs qu'on connaissait pas pour la plupart d'entre nous, le fait d'apprendre à le faire ensemble, ça crée du lien, ça crée de la nécessité de composer, de s'arranger, de découvrir des manières de fonctionner ensemble. Mais c'est pas suffisant si on porte pas autant d'attention à la manière de vivre qu'à la manière d'habiter de manière matérielle, quoi. Si on se donne pas la manière de vivre comme un objectif assumé aussi, j'ai l'impression que ça, on peut très bien avoir un collectif qui, ou même un ensemble de collectifs qui, ça va, se débrouille, fait à peu près ce qu'il a besoin, et puis bon, mais dans le fond, se parle pas, se fait la gueule, ou bah, pas des liens très profonds, etc., quoi. Et c'est ce qui peut se passer ailleurs, dans d'autres lieux plus isolés d'ailleurs. Et c'est le fait qu'on soit.
Ou complètement... moins isolé, je suis pas sûr que ce soit l'isolement qui soit le critère fondamental là.
Peut-être. Enfin, j'ai l'impression qu'un des trucs qui fait que on accorde beaucoup d'importance à comment on fait pour s'arranger, pour vivre ensemble, ici, c'est aussi le fait que on y est un peu forcé par la diversité des gens qu'il y a. Et par la diversité des vies que les gens ont eues avant, des horizons politiques et des ambitions, enfin, aussi au terme de qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, que les gens ont, quoi. Et, accorder tout ça, c'est un gros boulot, ça va pas sans friction, mais du coup, à chaque fois qu'on y arrive plus ou moins, ça a nécessité une ouverture de tout le monde et un dépassement de chacun, et c'est là qu'on a fait un gros progrès, quoi.
Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à ça, justement ? Parce que accorder de l'attention au fait de vivre ensemble, c'est bien, mais comment est-ce que ça débouche sur, justement, ce travail d'ouverture que vous décrivez ? C'est à travers des discussions sans fin, c'est à travers des... rituel.
Ben, les autres pourront compléter, mais moi j'ai l'impression que ça passe par un peu tout ce qui est possible, quoi. C'est-à-dire qu'on a des discussions sans fin, certaines qui avancent pas, mais des fois faut accepter qu'on est bloqué sur un sujet et que c'est la vie, quoi. Certaines qui avancent. On a plein de chantiers et c'est aussi en faisant avec les autres qu'on dépasse des trucs. On a des fêtes, des célébrations, on a des moments de partage informel. Enfin, j'ai l'impression que ça se crée par tout ça, en fait, quoi.
Camille.
Pour donner un exemple, il y a une histoire de comment on communique sur la zone, parce que c'est une zone qui est assez grande, qui fait 3 km sur 10 à peu près, et donc avec des gens éparpillés un peu partout. Et il y a un outil qui fonctionne à peu près bien maintenant depuis quelques années, c'est un petit journal qu'on fait nous-mêmes, et qui depuis le temps commence à être un peu trop épais à certains moments, mais qui c'est Zen News, et cet outil-là, ça permet d'annoncer à travers un agenda tous les événements collectifs. Donc que ça soit les distributions de pain, le non-marché, les chantiers collectifs, les manifs auxquels on va ensemble. Enfin, toutes ces choses-là sont partagées à travers un outil comme ça. Et ça fait qu'on est, on partage le même quotidien, même si on est un peu dispersé. C'est aussi un outil qui permet à des gens qui ont envie de faire passer des petites annonces, des infos, des coups de gueule ou même des idées politiques, qui peuvent le faire. Et ça fait que c'est pas juste un journal d'information, c'est un outil d'échange qui lie les habitants.
Et comment est-ce qu'on se le procure, ce journal? J'imagine mal un marchand de journaux qui fasse le tour de la ZAD en vélo, quand même.
C'est le cas. C'est le cas.
Sauf qu'il ne le vend pas, mais...
Eric.
Oui, du coup, tous les lundis, il y a le facteur de la ZAD. Et en fait, qui a plutôt délégué... cette tâche a été plutôt déléguée en général à des arrivants, enfin à des gens de passage. C'est pour eux un bon moyen de faire un peu une visite de l'ensemble des lieux de la ZAD, de rencontrer plein de gens.
Tout Donc en vous leur donnez une carte?
Oui, ils ont une carte et une liste des 60 lieux. Des
60 lieux?
Oui, il y a à peu près 60 lieux de vie.
C'est plus que ce que je croyais.
Ça surprend toujours.
Ouais, c'est vrai, hein. Des lieux de taille différente?
Des lieux très très différents les uns des autres. Il y a des lieux qui sont habités par des habitants historiques, propriétaires ou locataires de la... Enfin,
aujourd'hui, squatters.
Jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Mais...
Ouais, puisque là, ils ont été effectivement... Enfin, le décret d'expulsion a été prononcé. Donc ceux qui étaient là depuis... des décennies, se voient aujourd'hui squatteurs chez eux.
Oui. Il y a des fermes en activité, il y a des cabanes isolées dans les bois, il y a des regroupements de camions, de caravanes avec des yourtes, il y a vraiment toutes sortes de lieux, des lieux où vivent une ou deux personnes et des lieux où vivent un collectif d'une douzaine de personnes, une très très grande diversité, quoi. Et aussi, du coup, sur la ZAD, il y a une... très grande hétérogénéité aussi des lieux. Il y a des lieux qui sont plus ou moins ouverts, des lieux qui sont plus ou moins fermés, des lieux d'activité, des lieux qui sont plus des lieux de vie. Il y a des lieux qui font plus ou moins d'accueil. Et puis, d'un endroit à l'autre, souvent, en fait, les gens se regroupent par affinité. Et ce qui fait aussi que les imaginaires dans les différents lieux sont très différents. Les désirs politiques, les origines sociales, les cultures. Et du coup, les ambiances aussi sont très différentes, quoi. Et ça, c'est une des choses que je trouve vraiment riche ici, c'est qu'on peut aller d'un lieu à l'autre. L'ambiance sera complètement différente, mais en général, c'est plutôt chouette.
Mais est-ce que vous le faites? Vous dites on peut aller d'un lieu à l'autre, mais est-ce que d'un lieu à l'autre, vous circulez, vous rencontrez? Camille?
Ça dépend aussi des envies de chacun. Il y a des gens qui sont très casaniers et qui ne bougent pas de la cabane ou du jardin dans lequel ils sont pendant des mois. Il y a des gens qui vont tous les jours voir leurs voisins en vélo ou pour aller chercher du pain ou des choses comme ça, enfin, qui vont assez souvent se balader. Et puis il y a des personnes qui aussi sont nomades, qui font 2 mois avec leur yourte à tel endroit, qui après changent. Et puis, mais comme il n'y a pas de contraintes et qu'ils n'ont pas de bail avec des délais et tout ça... Dès qu'on a envie de changer et de voir d'autres personnes sur la zone, c'est tout à fait possible. Et c'est ça aussi qui fait une sorte de très belle liberté sur cette zone. C'est, on peut être nomade, sédentaire ou un peu les deux. Il n'y a pas de frontière entre les différents collectifs et les différents lieux, finalement. C'est plus les usages et les envies de chacun qui font que ça bouge.
Eric ?
Par rapport aux outils du vivre ensemble, Camille parlait du Zen News.
Il y a la radio aussi.
Il y avait la radio qui, pendant un temps, a cessé de fonctionner parce qu'elle était en réparation, mais là, elle refonctionne. La radio, elle a eu un rôle très très important, notamment pendant toute l'époque de la présence policière, pour pouvoir s'organiser et réagir en temps réel au mouvement de police. Sinon, il y a une autre chose qui est extrêmement importante aussi pour le vivre ensemble, ce sont les réunions. Il y a la réunion du jeudi, qu'on appelle, c'est la réunion des habitants de la ZAD. Donc tous les jeudis, on se retrouve pour discuter de toutes sortes de choses, pour donner des informations, pour parler d'envies, de projets, de conflits, d'embrouilles, de toutes sortes de choses. Il y a aussi une autre réunion, c'est l'Assemblée Semtazad, qui concerne
les questions agricoles,
les questions d'occupation agricole pour organiser l'occupation agricole des terres, et puis l'Assemblée du Mouvement, donc un mardi soir sur deux en général, qui concerne tout le mouvement de lutte, donc non seulement la ZAD, mais aussi toutes les organisations, quoi. Donc il y a plein de gens qui vont à ces réunions, mais en même temps, il faut bien voir aussi qu'il y a plein de gens qui n'y vont pas, parce qu'on est très très différents les uns des autres. Et justement, vivre cette expérience-là qu'est la ZAD nous a fait prendre conscience que l'utopie démocratique selon laquelle tout le monde se retrouverait devant une grande assemblée, et on discuterait tous ensemble pour prendre collectivement au consensus les décisions, eh ben c'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'une part, on arrive presque jamais à... ou enfin, on arrive rarement à avoir des consensus. Et donc le conflit est quelque chose de très présent sur la ZAD. Mais le conflit est quelque chose de présent, mais d'accepter et d'assumer. Mais aussi, en fait, il n'y a pas de gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment important à dire. Il n'y a pas de gouvernement de la ZAD. Il y a bien, donc, par exemple, ces temps de réunion, d'où peuvent sortir quelques décisions, mais ce ne seront jamais des décisions qui régiront la vie de l'ensemble des lieux de la ZAD. Ça, c'est vraiment très important à dire. C'est-à-dire qu'on peut vivre sur la ZAD et avoir l'autonomie de vie de chacun est respectée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation d'aller en réunion, quoi. Aucune obligation de respecter des décisions qui auraient été prises par en haut. Dès qu'on parle de la vraie vie, c'est complexe. Il y a toujours un peu des exceptions à ça. Mais par exemple, il y a eu quand même des décisions. Il y a eu la décision que porter des armes de manière permanente et ostensible, c'est pas quelque chose comme un couteau ou une hache à la ceinture pour montrer, voilà, ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui crée un rapport un peu oppressant et qu'on... Il a été décidé que ça, ce serait pas accepté. Ou par exemple, que d'avoir des chiens vagabonds... qui pourrait mettre en danger les bêtes, c'est pas accepté, quoi. Donc il y a un certain nombre de règles quand même qui ont été choisies collectivement, mais et on sait pourquoi on les a choisies, et elles ont été choisies collectivement et à un moment bien précis et tout ça. Mais ça fait figure peut-être... d'exception.
Oui, voilà, j'allais dire peut-être qu'elles sont aussi peu nombreuses et que c'est aussi ce qui permet qu'elles soient acceptées. Jacob ?
Moi j'ai l'impression que ça rejoint le truc entre autonomie et hétéronomie. La différence entre le peu de règles qu'on s'est donné jusqu'ici et les règles auxquelles on est confronté dans, on va dire, le reste de la société, quoi. C'est que les règles qu'on s'est données ici, on se les est données après avoir été confronté à des problèmes, après avoir vu la nécessité de s'accorder sur des points, et après avoir élaboré ensemble quelles règles pourraient nous aller pour régler le problème, en fait. C'est ça l'énorme différence, en fait. C'est que ce qu'on a décidé ou ce qui est en usage ensemble, c'est des trucs qui sont venus d'un besoin perçu, partagé, sur lequel on a pris le temps de s'accorder. C'est le fait de s'approprier, en fait, nos règles de vie qui a une différence, quoi.
D'ailleurs, ces règles, elles n'ont pas été écrites sur un texte qui aurait été publié et envoyé dans tous les lieux de manière définitive. Elles doivent bien être écrites à un moment donné dans un compte-rendu de réunion. Mais elles sont surtout en fait dans les esprits d'un peu tout le monde. Et je dis ça pour dire que en fait c'est des règles qui sont importantes, hein, mais elles sont pas non plus gravées dans le marbre. N'érige pas ça en loi, quoi.
Et une question que je me pose en vous écoutant les uns et les autres, c'est bon, je viens un peu de l'évoquer avec la question du nombre de règles, mais aussi le nombre de personnes. Est-ce que vous pensez que ce type d'organisation, à la fois très souple et qui permet une grande diversité et beaucoup de nuances, est-ce que c'est rendu plus facile du fait que vous êtes un groupe relativement peu nombreux, même si 60 lieux, c'est quand même pas mal? Mais est-ce que ça serait possible à l'échelle d'une ville, par exemple? Jacob?
J'ai l'impression que c'est une éternelle question. Et de genre, ouais, votre truc, ça peut pas marcher pour une société entière, etc.
Ah non, c'est pas ça que j'ai dit.
Non, mais c'est souvent une objection facile qu'on entend. Moi, j'ai l'impression que il y a des exemples desquels on s'inspire des fois et qui prouvent que c'est possible à des échelles plus larges. Enfin, je pense quand même au Rojava, je pense aux Zapatistes, je pense à d'autres endroits en Espagne, par exemple, où ils peuvent s'organiser à l'échelle d'une vallée. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être qu'on peut considérer que dans ces endroits-là, il y a un formalisme plus grand, en fait. Mais ce que j'ai l'impression qui demeure, c'est l'attachement au consensus, l'attachement au fait d'avoir des décisions horizontales, et voilà, l'attachement à se dicter des règles de vie par et pour les gens qui les appliquent, etc. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que ça peut prendre différentes formes, mais que sur ces principes-là, on pourrait vivre ensemble dans le monde entier. Hein. Je vois pas ce qui nous en empêche, quoi.
Eric ?
Bon, bah, là, on parle de la ZAD parce qu'on est à la ZAD et que c'est un sujet sur la ZAD, mais en même temps, la lutte, elle n'est pas que locale. C'est pas juste une lutte locale, il y a énormément de comités de soutien de partout en France et même de l'étranger jusqu'à Barcelone. Et en fait, c'est une lutte globale aussi par le fait que c'est contre l'aéroport et son monde et qu'en fait, je vois pas de limite entre la lutte anti-aéroport et les autres luttes. C'est un peu comme les vases communicants avec d'autres luttes, comme par exemple le quartier des Lentières à Dijon, ou comme les luttes de soutien aux migrants, ou la lutte de la Notav en Italie contre le train à grande vitesse, la ligne Lyon-Turin. Voilà. Donc en fait, on est déjà organisé à une échelle très large, en fait.
Mais la limite dont je vous parle, c'est pas le fait que le monde entier ne pourrait pas vivre de cette façon-là, c'est juste la limite de chaque groupe, de chaque unité, en quelque sorte, de vie. Et par unité de vie, j'entends pas simplement un lieu, les 100 noms, mais la ZAD. C'est-à-dire, on en parlait avec Olivier Rey, qui a donc écrit le livre Une question de taille. Il semblerait quand même que si on dépasse dans un groupe le nombre de personnes qui peuvent se connaître entre elles, les problèmes deviennent plus complexes et plus difficiles à résoudre et demandent davantage d'intervention, davantage de lourdeur, de pesanteur.
Oui, quand on dépasse l'échelle des relations humaines, eh ben, y a besoin d'institutions pour que la société, du coup ça devient une société, se tienne. Et ce qui pose problème dans les institutions, c'est le fait justement qu'elles dépassent les individus. C'est-à-dire que plus personne n'a la maîtrise des institutions, et une institution, ben, comme toutes les organisations, ça a vocation à se maintenir, à perpétuer, et ça instaure quelque chose d'oppressant. Et donc nous, on veut pas du tout ça, quoi. Et c'est vrai que souvent on nous pose la question, oui, mais comment ça marcherait à l'échelle de la France ? Et en fait, c'est sûr, la question est biaisée, c'est pas possible. Ce qu'on vit ici n'a pas vocation à être élargi, ça n'a pas vocation à être un modèle qui vaudrait pour une échelle large. Je pense par contre à un truc très intéressant qu'a écrit Murray Bookchin. Alors, je ne l'ai pas lu, mais on m'en a parlé, du coup, de ce que j'en ai compris. Il parle de municipalisme libertaire. C'est-à-dire que lui, il voit l'idéal utopique à l'échelle du monde comme une constellation de plein de groupes autonomes qui auraient des façons de vivre qui leur seraient propres, qui pourraient avoir des échanges entre elles, etc., mais qui auraient avant tout des organisations locales par municipalité, il appelle ça, ou aujourd'hui on pourrait dire par commune.
Et alors si on revient maintenant à ce qui se passe sur chaque lieu de vie, est-ce que justement le fait d'être des groupes où vous vous connaissez, même s'il y a effectivement des nouveaux qui arrivent, des gens que vous connaissiez qui partent, mais il y a quand même ce réseau d'interconnaissance. Est-ce que ça permet que soit plus facile à élucider les problèmes de conflit que vous avez évoqués et sur lesquels je crois que vous aviez envie de parler un peu plus? Et est-ce que ça permet aussi peut-être plus facilement d'atteindre des formes d'autonomie matérielle? C'est-à-dire, on n'a pas parlé encore de l'énergie, mais est-ce que c'est plus facile peut-être pour se nourrir, pour avoir voilà, des sources d'énergie qui permettent de faire vivre tout le monde? Camille?
Par rapport à ça, c'est vrai que le fait de vivre en collectif ou en groupe, enfin, ça dépend comment les gens aiment se définir, mais en tout cas, se regrouper plutôt par affinité que par nécessité, parce que on partage le même niveau d'un appartement ou quoi que ce soit. Ici, il y a quand même la possibilité de choisir son quotidien avec des gens qui partagent les mêmes idées, donc ça fait qu'il y a des lieux qui, par exemple, se revendique végétalien et qui porte ça souvent et en permanence. Bon, ils peuvent accueillir n'importe qui à manger à leur table, mais il faut pas que la personne ramène une boîte de rillettes. Enfin, en général, ça se passe toujours bien sur ces questions-là. Mais ça fait que vraiment chacun peut déterminer quel quotidien il a envie d'avoir, quelle idée politique aussi il a envie de porter, parce que chaque collectif et lieu sur la zone revendique certaines choses et est capable de les porter en général assez facilement dans l'ensemble de la zone après. Et je pense à un autre exemple, des lieux qui sont aussi assez rares, mais qui sont quand même assez intéressants. de non-mixité qui permettent à des femmes de s'organiser sans être en permanence repris par un mec, de pouvoir discuter entre elles, de pouvoir faire des chantiers entre elles. Et en général, les chantiers sont beaucoup mieux organisés et toujours beaucoup plus enrichissants. Enfin, je dis ça, j'ai pas été, hein, heureusement. Mais...
pour des raisons évidentes.
Ouais. Et donc, ça fait que chaque lieu a quand même une certaine autonomie sur les quotidiens, les envies politiques qu'ils ont. Et après, il y a toujours parfois des couacs et des oppositions qui sont personnelles ou entre collectifs aussi, on se le cache pas. Hein, parfois, il y a des lieux qui s'entendent pas. Et il y a quand même, par contre, une vigilance de l'ensemble des groupes et des gens sur la zone à faire en sorte que quand même on est voisins de fait avec ce projet d'aéroport et que on fait en sorte de régler les conflits entre voisins, quoi.
Eric ?
Oui, on se rend compte ici que les conflits ont beaucoup d'importance en fait dans la vie collective et dans la vie tout court. D'abord parce que le conflit signifie une confrontation, donc il signifie des remises en question et c'est ce qui fait qu'on se transforme. Et la société, au contraire, elle vise toujours à éliminer les conflits, à les faire taire, à pacifier tout et tout le monde. Or, en fait, si on veut vivre dans un monde en paix, eh ben, il n'y a que deux possibilités. Soit il faut vivre qu'avec des gens qui nous ressemblent, et donc on pratique une sélection et une exclusion.
Et surtout un conformisme terrible.
Soit il faut transformer les gens qui sont là pour qu'ils deviennent conformes à une norme sociale. Et donc c'est le rôle de la propagande, de la manipulation, de l'éducation, vous voyez, au sens avec tout le côté formatage qu'il y a. Et par exemple la société actuelle, eh ben c'est une société qui nous formate, fait de la propagande pour aller dans la direction collective unique de l'économie et par le travail contre un revenu, donc la marche forcée vers l'économie, quoi. Et c'est précisément ce dont il est important de s'extraire. Et à la ZAD et dans les milieux autonomes ou anarchistes ou libertaires ou émancipateurs, je sais pas comment le dire, mais il y a cette attention-là à ne recréer ni de l'exclusion, ni du conformisme, et ni non plus une propagande ou une manipulation. Voilà. Et donc, de fait, ça fait que la vie, sociologiquement, on est très hétérogène. Et on a des pensées très hétérogènes et... Le conflit est une émanation de ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il est plutôt le bienvenu. Voilà, tout à l'heure, Jacob parlait de... On pourrait imaginer qu'on se fasse la gueule. Et ben, en fait, on se dispute pas mal, mais on se fait pas la gueule.
Jacob ?
Moi, je le trouve vraiment très limité, cet argument de l'échelle. Mais j'ai l'impression, déjà, rien que parce que ici, pour moi, on est dans une situation bâtarde, en fait. Où, en fait, de fait, on se connaît pas tous. Ou alors, il y a des relations qu'on a que très superficielles, de vue, quoi. Et pour moi, on est dans le milieu entre une société où vraiment il y a beaucoup de gens inconnus autour de nous et un collectif restreint où on vit ensemble. On est entre ces deux échelles, en fait. Et de fait, on trouve des solutions qui viennent des deux modes de fonctionnement et on invente des trucs hybrides, en fait. Par exemple, pour résoudre les conflits, des dernières trouvailles qu'il y a eu, c'est d'avoir un groupe de médiation qui serait tiré au sort parmi une liste de volontaires, de gens qui sont portés volontaires dans toute la zone, mais qui a un certain nombre de principes de base de son action, quoi, qui intervient que sur demande, qui n'est là que pour faire de la médiation, enfin, qui n'intervient physiquement qu'en cas d'urgence avérée, quoi, et qui a un certain cycle de fixé à l'avance de rotation des personnes, etc. Donc, enfin, c'est un truc assez formel, quand même. Mais j'ai l'impression que dans les exemples que j'ai cités, c'est bien plus formel encore, mais ça concerne bien plus de gens. Et pourtant, l'échelle de l'interconnaissance est largement dépassée. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fonctionne, ou au moins que c'est en très bonne voie. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas franchement une question d'échelle, c'est une question de mentalité, en fait. C'est une question de volonté initiale des gens d'aller dans ce sens-là. Et peut-être t'as pas l'air d'accord. Mais j'ai l'impression que on a tendance à penser que c'est plus possible parce qu'on vient de sociétés occidentales qui sont plus du tout habituées à ça, qui n'ont pas été éduquées à ça, et que retourner vers ça, en fait, ça prend du temps. C'est une question de transformation des individus et après d'éducation. Et que du coup, en fait, faire en sorte que plein de gens y viennent, c'est des choses qui nécessitent soit du temps, soit un peu des exceptions culturelles de gens qui ont déjà été formés à ça ou qui ont été obligés à ça aussi en partie par des pressions extérieures. Voilà.
Alors j'ai quand même encore une question parce que vous avez beaucoup parlé de l'hétérogénéité des gens qui sont présents sur la ZAD. Je trouve quand même que vous avez à peu près tous le même âge. Est-ce qu'il y a aussi des enfants et des personnes âgées ou est-ce que c'est quand même vraiment massivement un groupe de jeunes ? Eric.
Il y a aussi des enfants et des personnes âgées. C'est vrai qu'il y a un peu plus de trentenaires que de gens qui auraient entre 40 et 50 ans. Ça, je crois que ça tient au fait que c'est assez difficile quand on a une famille et des engagements familiaux, tout ça, de pouvoir s'organiser, de s'occuper des enfants et en même temps être dans la lutte et tout ça, quoi. Mais ces réflexions-là sont en cours. Et il y a beaucoup de gens trentenaires qui commencent à avoir des enfants et la question est en train de se poser vraiment de comment s'organiser avec des enfants pour, encore une fois, ne pas séparer la vie et la lutte.
Camille ?
Dans les choses qui se mettent en place en ce moment par rapport à ça, c'est depuis maintenant quelques mois, il y a une ferme qui a été occupée et qui est devenue ce qu'on pourrait appeler une crèche, mais qui n'est pas vraiment une crèche parce que c'est beaucoup plus libre que ça. En gros, c'est des parents et des gens qui sont prêts à passer du temps avec des enfants qui tiennent un lieu ouvert pour qu'il y ait des gens qui viennent avec leurs enfants échanger. Trouver aussi du soutien matériel, avoir de quoi nourrir les enfants, des couches, des vêtements propres, des choses comme ça. Ça fait que on s'adapte finalement à la situation au fur et à mesure. Là, depuis les expulsions, il y a une petite dizaine de personnes qui ont accouché sur la zone. Ça fait que la question se pose au fur et à mesure que la lutte elle évolue et que les gens sur place construisent leur vie ensemble et avec des enfants.
Parce que de fait, vous construisez vos vies, c'est-à-dire vous voyez rester là longtemps avec des enfants qui grandissent ici.
Même si les choses sont fluctuantes et que beaucoup de gens sur la zone n'aiment pas avoir de carrière et de vie tracée jusque dans 30 ans, il y a quand même un sentiment partagé par pas mal de gens sur l'idée de se projeter à long terme. Ça fait que si on revient à des sujets plutôt agricoles, on pense l'entretien des haies, des champs, les rotations de culture à plusieurs années et aussi nos vies se construisent à l'échelle de plusieurs années et pas juste dans l'immédiat de « Ah, demain on sera peut-être expulsé ». Il y a les deux qui sont quand même présents à chaque fois, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça implique aussi que dans la construction de nos vies personnelles, on puisse se projeter à plusieurs années, voire dizaines d'années, sans avoir peur de cette possible expulsion qui est de plus en plus éloignée du calendrier, quoi.
Et aussi de vos réflexions, de vos pensées.
Ah non, ça on... On garde toujours dans un coin de la tête, si les forces de l'ordre viennent et si les bétonneurs viennent sur cette zone, on saura bien les accueillir.
Et la suite, après, quand tout ça sera réglé, qu'il n'y aura pas d'aéroport, Jacob ?
Moi j'ai l'impression, pour faire un peu transition, que penser à long terme et mener la lutte au quotidien, non seulement c'est pas antinomique, mais que même... penser à long terme peut nourrir la détermination à défendre ici, en fait. C'est-à-dire que le fait de créer du commun, le fait de créer des objectifs, le fait de se donner des ambitions pour la durée et d'ancrer, des réalisations, des cabanes, des équipements qui sont là pour durer, ça donne des trucs à défendre, en fait. Et ça crée des choses entre les gens qui crée une cohésion qui est utile aussi à la lutte et qui est utile à la niaque qu'on peut avoir pour pas lâcher le morceau, en fait. Si c'était juste rester là et attendre béatement une ordonnance d'expulsion, qu'est-ce qu'on aurait à défendre le jour où il viendrait, en fait ? Et puis ça crée aussi une mentalité qui est pas dans l'attentisme du prochain coup de l'État, mais qui a une idée de se dire le prochain coup de l'État, on sera plus fort que parce que on voit ça comme un truc qu'on va dépasser, en fait, comme on a dépassé les expulsions. C'est un truc qui va peut-être être un coup dur, en fait, mais il y a cette idée de on sera encore là après ça et on continuera à faire des trucs après ça. C'est un passage, quoi. Il n'y a pas de crainte que ce soit une fin, en fait.
Eric ?
Et d'ailleurs, il y a un texte qui constitue un peu la base du vivre ensemble pour la suite, sur lequel on s'est mis d'accord, c'était l'hiver précédent. On a beaucoup discuté, beaucoup travaillé sur ces questions-là, et c'est un texte en 6 points qui s'intitule « Parce qu'il n'y aura pas d'aéroport ». Il y dit qu'une fois le projet d'aéroport abandonné, nous voulons, donc toutes les composantes de la lutte, que tous les historiques, que ce soit les exploitants agricoles ou les habitants, qui sont allés jusqu'à l'expropriation, c'est-à-dire qui ont toujours refusé les négociations avec Vinci, puissent rester sur la zone et retrouver leurs droits. Il y a un point aussi qui stipule que les nouveaux habitants qui sont venus squatter pour prendre part à la lutte depuis 2007, eh bien, on souhaite qu'ils puissent rester sur place dans la diversité de leur forme de vie et aussi dans avec le caractère hors cadre de leur mode de vie. On veut qu'ils puissent rester et que ça se poursuive. Il y a un point aussi qui concerne la répartition des terres qui ont été finalement libérées par le fait que l'aéroport ne se fait pas. Et ces terres-là, eh bien, on veut qu'elles soient gérées par le mouvement lui-même, par une instance du mouvement et non par les institutions habituelles. Et que ces terres aillent non pas à l'agrandissement de terres agricoles, mais à des nouvelles installations.
Aucun d'entre vous n'a parlé du référendum. Pourtant, vous ne pourrez pas voter. Camille?
Sans rentrer trop dans les détails techniques, ce référendum-là, c'est un bric-à-brac législatif qui est dans les faits juste une consultation qui a une portée relativement limitée vu qu'elle va concerner juste le département de Nord-Atlantique. On en discute quand même un peu sur la zone, mais on est arrivé quand même à un constat que ça, c'est juste une cartouche que l'État a déclenchée pour gagner un peu de temps, parce qu'il sait pas ce qu'il va faire. En tout cas, on a l'impression qu'il est un peu en défaut sur ce truc-là. C'est pour ça qu'il déclenche cette cartouche-là. Ça changera pas la détermination des gens qui sont sur zone. On voit bien que c'est un peu mal construit ce référendum et que on se projette déjà, quoi qu'il arrive, après l'aéroport, avec aussi les paysans et les habitants historiques. Parce que il y a quelque chose qui pointe quand même sous le bout de son nez, c'est que après la lutte contre l'aéroport, il y a une nouvelle lutte qui commence. C'est une lutte agricole qui est plus subtile, mais qui sera sûrement tout aussi complexe à gérer. Et c'est une lutte qui, à mon sens, est encore plus intéressante que la lutte contre l'aéroport, parce qu'elle commence à parler de comment aujourd'hui on produit de la nourriture en France et comment on fait pour vivre sur des territoires. Et si on veut faire un parallèle, il y a quand même en ce moment pas mal de crises dans le secteur agricole. Et pour moi, c'est quelque chose qui marque aussi la fin d'un fonctionnement. Et ici, à Notre-Dame-des-Landes, avec l'abandon de l'aéroport, on a la possibilité d'entamer des projets et des nouvelles façons de vivre sur les territoires qui règlent aussi ces problèmes-là.
Si je vous demande de penser à votre vie d'avant et à votre vie aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qui a le plus changé ou qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette nouvelle vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Eric?
Oh ben pour moi, il y a beaucoup de choses. Je crois que je me suis beaucoup transformé et que je me suis vraiment enrichi de plein de choses ici. Et que d'ailleurs, je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie de continuer cette expérience, ce bout de chemin, quoi. Évidemment, il y a aussi les amitiés avec. Je vis avec des gens que j'aime beaucoup. Et entouré de plein de gens que je trouve vraiment super, et on mène une lutte ensemble qui est belle, et avec plein de gens que j'aime, quoi. Donc ça, c'est très fort aussi. Et puis, il y a aussi que on a le sentiment de participer à un mouvement de lutte qui est fort et qui est important. On a un peu le sentiment d'écrire l'histoire, pas l'histoire avec un grand H qui sera dans les manuels officiels des ministères, évidemment, mais une histoire, intéressante des luttes populaires.
Camille?
À écrire notre histoire, pas dans une logique d'orgueil ou quoi que ce soit, mais d'avoir une vie dont on est un peu maître, et même si on peut pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais en tout cas de se prendre vraiment en main et de plus être attentiste et enfin d'être que dans l'attente d'un changement qui viendrait de la COP21 ou des dirigeants qui tout d'un coup deviendraient un peu plus avertis sur ce qui se passe à l'échelle globale. Et à travers cette possibilité de reprise en main, c'est aussi la possibilité de faire des choses ensemble et de créer des aventures collectives qui donnent un goût à la vie qui vaut largement tout ce qui peut être produit à travers toute la société de consommation.
Jacob?
Ouais, mais pareil, il y a plein de choses qui ont changé et tout est encore en travail en moi, mais j'ai l'impression les deux plus gros trucs, c'est que avoir fini de m'éduquer, en fait, enfin, m'être éduqué à vivre avec des gens sur des principes autres et pour lesquels vraiment enfin je suis complètement en accord. Et il y a le fait aussi d'avoir acquis de la détermination, de la niaque, du courage, je sais pas trop comment appeler ça, mais le fait que maintenant, quel que soit le reste de ma vie, en fait, je sais que c'est possible de pas lâcher le morceau quand on voit une injustice. J'ai plein de pistes sur comment faire pour pas lâcher et déjouer le truc. Et du coup, j'ai l'impression que je m'écraserai plus, quoi. Ou en tout cas, beaucoup moins sur ce que je rencontrerai dans le reste de ma vie.
À la première lune, nos malurins sont venus les notaires. Nous sommes restés là, à la cime, à la zade, à la zim zoum zade de Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes. À la deuxième lune, l'on malura les beaux parleurs arrivent. Mais nous sommes restés là, à la zim, à la zade, à la zim zoum zade de Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes. Et à la troisième lune, l'on malura les grands patrons des barques. Mais nous sommes restés là, à la zim, à la zade, à la zim zoum zade de Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens utiles. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre, qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Claude Niort, réalisation Jean-Christophe Francis, et à la semaine prochaine pour reparler de Notre-Dame-des-Landes.
À la cinquième lune, l'on malura, sont envoyés les gendarmes.
À la cinquième lune, l'on malura, sont envoyés les grenades.
Mais nous sommes restés là, à la zim, à la zade, à la zim, zoum, zade de Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes. Et à la sixième lune, l'on malura, viennent les bétonneuses.
D'une longue malura vienne des bétonneuses.
Mais nous sommes restés là, à la zim, à la zade, à la zim, zoum, zade de Notre-Dame des Landes, longue malura de Notre-Dame des Landes.
Il y avait des paysans, professeurs des infirmiers,
et avocats des ouvriers,
des facteurs et des coiffeurs,
des danseurs animateurs,
antiquaires et boulangers,
chanteurs, pilotes, éducateurs,
des langues, des rapides,
des noirs, des blancs, des jeunes, des vieux,
dans le froid, la boue,
sous les arbres, sous la pluie, les chansons,
la rue.
À la dernière lune, l'on malura, sont repartis en arrière.
Mais nous sommes restés là, à la zim, à la zade, à la zim, zoum, zade
de Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.
De Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.
De Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.
De Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.
De Notre-Dame des Landes, l'on malura de Notre-Dame des Landes.